À l'heure du confinement décrété par le président de la République il y a maintenant un mois, le principe de continuité pédagogique amène les élèves et les étudiants à continuer à aller à l'école, mais depuis chez eux, sur ordinateur, tablette ou téléphone. Si les foyers sont inégalement équipés en outils numériques, ce jeune public en est lui familier. Le terme de « digital natives » désigne les personnes nées à partir du début des années 90, une génération née avec le numérique, un langage d'ailleurs semblable à une langue maternelle pour elles. D'après une étude Médiamétrie publiée début 2020, 49% des foyers français où vivent des enfants de 0 à 14 ans sont équipés d'au moins un équipement numérique. Rien que pour les smartphones, 21% des enfants disposent de leur propre terminal, avec un âge moyen d'accès établi à près de 10 ans. En parallèle, l'institution qu'est l'école a elle aussi évolué dans ce sens et accueilli les outils numériques entre ses murs. Des ordinateurs en classe aux tableaux numériques, en passant par l'environnement de travail numérique, cet espace en ligne où on peut retrouver des documents et des bulletins scolaires, et jusqu'auprès de matériel, tablettes, ordinateurs, dans le cadre du plan numérique pour l'éducation lancé en 2015. Des outils numériques qui font leur entrée en classe, mais aussi un accompagnement pour apprendre à les utiliser en intégrant le numérique dans les programmes même de l'éducation nationale, notamment à travers l'usage croissant depuis une dizaine d'années par les enseignants de jeux vidéo éducatifs. On précise que d'après une étude de l'Association internationale pour l'évaluation du rendement scolaire, parue fin 2019, seule la moitié des enseignants utilisent des outils numériques en classe, un usage qui est donc plutôt réduit. Les Serious Games, jeux sérieux, introduits au XXe siècle d'abord dans les domaines de l'entreprise, de la publicité entre autres, peuvent prendre la forme de jeux de société, de jeux de rôle, mais aujourd'hui la formule désigne surtout le format vidéo. Parmi ces jeux sérieux, une véritable industrie, les jeux vidéo éducatifs qui ont eux pour point commun de ne pas juste être des jeux, ils servent également un intérêt pédagogique. Alors quelle place pour le jeu vidéo éducatif à l'école face aux cours dits présentiels ? Pour quelle classe d'âge ? Quel peut être l'intérêt du jeu vidéo éducatif pour l'apprenant mais aussi pour l'enseignant ? Ne serions-nous pas en train de basculer dans une tyrannie du ludique à toujours vouloir apprendre en s'amusant ? Sur la question de l'outil numérique, enfin, quels sont les dangers du multitasking, l'art d'être multitâche pour un élève ou un étudiant dans une classe ? Élément de réponse tout de suite, bienvenue dans Chercheurs en ville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui, notre invitée est Séverine Herel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en psychologie cognitive et ergonomie à l'université Rennes 2, également membre du laboratoire de psychologie, cognition, comportement, communication, enseignant-chercheur affilié au groupement d'intérêt scientifique Marsouin. Et dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à côté de vous, Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'Homme en Bretagne. Bonjour Christian.
Bonjour Lucie, bonjour à tous.
Colette, c'est à vous.
Séverine Herel, pour bien apprendre, il faut être motivé, actif et concentré.
Exactement. Oui.
Or, dans vos travaux de recherche, vous avez constaté que les nouveaux outils de type ordinateur, tablette, téléphone portable distrayaient passablement les élèves. Qu'avez-vous observé chez vos étudiants depuis quelques années ? Et d'abord, question très simple, comment prennent-ils des notes sur ordi ou par écrit ou... Ils enregistrent.
Donc, il y a de multiples questions dans votre question. Alors, la première question, c'est comment les étudiants prennent des notes et est-ce qu'il y a un support qui est plus adapté qu'un autre à la prise de notes ? Donc, il y a plusieurs études, en fait, qui ont essayé d'évaluer les effets de la prise de notes. Et notamment, la première étude que tout le monde a citée à un moment donné, c'est celle de Muller et Oppenheimer. Donc, c'est une étude de 2014 où ils ont proposé une conférence TEDx. Et l'idée, c'était de voir s'il y avait un effet en fait, du support de prise de notes. Donc, ils ont comparé prise de notes à la main versus prise de notes sur ordi. Et ce qu'ils ont observé à travers une série d'études, donc je crois qu'il y en avait trois, c'est que globalement, il y a une supériorité en fait, de la prise de notes à la main sur le rappel d'informations conceptuelles, donc c'est sur la compréhension, on va dire, comparé à la prise de notes sur ordinateur. Et cet effet-là aussi, il perdure quand on leur demande de revoir leurs notes a posteriori, c'est-à-dire après, ensuite. C'est-à-dire, on leur dit, bah, vous pouvez réviser vos notes, et ensuite on leur fait répondre à un questionnaire. Et là encore, ceux qui ont pris des notes à la main sont meilleurs que ceux qui ont pris des notes sur ordinateur. Cette étude, alors on dit souvent dans la littérature, une étude ne fait pas foi, ne fait pas consensus. Donc il y a des chercheurs qui ont essayé de la répliquer en 2019 pour voir si ça donnait effectivement la même chose, si on observait encore une fois cette supériorité de la prise de notes à la main sur la prise de notes sur ordi. Et en fait, il s'avère qu'ils n'ont pas en fait répliqué ces effets. Alors, c'est-à-dire que sur leurs études, ils observent bien des bénéfices liés à la prise de notes sur des rappels, le rappel d'informations plutôt factuelles, donc qui est plus de l'ordre de la mémorisation. Mais par contre, quand il s'agit de la compréhension, donc de rappel d'informations conceptuelles, et ben là, en fait, ils n'observent pas de différence significative. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Ben, c'est que globalement, on ne peut pas en conclure grand-chose, mais en tout cas, a priori, pour l'instant, il n'y a rien dans la littérature qui laisse entendre que la prise de notes sur ordi est délétère comparée à la prise de notes à la main. On voit, dans les deux études, on voit bien qu'on est sur des types de prises de notes complètement différents. C'est-à-dire, quand ils sont en prise de notes sur ordi, ils ont tendance à faire beaucoup de ce qu'on appelle du verbatim, donc c'est du mot à mot. Ils essayent de tout recopier. Alors que quand ils sont sur de la prise de notes à la main, ils ont plus tendance à essayer de paraphraser les choses. Mais après, a priori, en termes de performance en apprentissage, ben, il n'y a pas de différence significative. Pour répondre à votre deuxième question, parce qu'elle est connectée à cette première question qui est la prise de notes. Les étudiants, en fait, aujourd'hui, on a remarqué dans nos cours qu'ils avaient tendance, à notre grand désespoir, à faire ce qu'on appelle du multitasking, c'est-à-dire de la prise qu'ils sont en train de prendre des notes, mais en même temps, ils font autre chose. Donc, ils nous écoutent, ils prennent des notes sur leur ordi, par exemple, et ils font autre chose. Et cette prise de notes, ben, elle est plus, à mon avis, enfin, ce multitasking, pardon, il est plus, il aura plus tendance à arriver quand on est, en fait, sur une prise de notes par ordinateur.
Christian Lebar.
Oui, alors c'est d'entrée passionnant parce que, étant enseignant, chercheur également, je suis confronté, comme nous tous, à cette situation où on a face à soi des amphis. Alors, pour moi, à Sciences Po, effectivement, c'est vraiment très frappant de voir qu'un amphi de première année, aujourd'hui, c'est 80% d'étudiants avec des micro-ordinateurs, au point qu'on a appris que la température de l'amphi augmentait d'un degré en moyenne du fait de la présence des micros. Et effectivement, on est totalement en aveugle sur le discours à tenir auprès des étudiants sur la pertinence de cette modalité-là. Pour compléter ce que vous disiez, et peut-être pour rebondir aussi, est-ce que la variable générationnelle doit jouer quand même beaucoup ? On commence à arriver là avec des générations d'étudiants qui ont un rapport à l'écriture dactylographique qui n'est quand même pas plus celui qui dominait il y a 10 ans et qui, du fait des téléphones, etc., fait que c'est des générations pour lesquelles l'écriture manuscrite est vraiment désuète. Il n'y a pas une question, une dimension aussi de performance, de capacité tout simplement à prendre un cours
à l'écrit.
Moi, personnellement, j'observe pas, je fais pas ce constat. Donc, la modalité prise de notes sur ordi, elle arrive de plus en plus. Pourquoi ? Parce que ça simplifie quand même énormément le travail des étudiants. C'est-à-dire,
ils n'ont pas à réécrire leur cours après.
Ils n'ont pas à réécrire leur cours après. Ils peuvent faire des modifications, ils peuvent l'enrichir, intégrer en fait des références à l'intérieur. Donc pour moi, c'est pas une modalité en fait de prise de notes à bannir. Alors j'ai lu beaucoup de choses par rapport à la prise de notes où des collègues sur internet notamment où des collègues s'inquiétaient que il y ait effectivement de plus en plus d'ordi dans les amphis et se disaient que finalement pour être sûr que les étudiants n'allaient pas faire de multitasking, eh ben il fallait mieux bannir. Le problème c'est que à mon sens, l'ordinateur n'est pas en fait va favoriser ce multitasking, va être une tentation multitasking, mais en soi n'est pas un problème, ne détermine pas le multitasking. C'est pas parce qu'on prend des notes sur ordi qu'on va faire en fait du multitasking. Je pense qu'il y a un gros travail d'éducation des étudiants par rapport à ça. Et après, la modalité de prise de notes sur ordinateur peut être beaucoup plus intéressante à mon sens que celle de la prise de notes, parce qu'il y a toujours cette possibilité de relire, d'enrichir, de partager ses notes, chose qui est un peu plus complexe quand on est à la main, parce que si par exemple je rajoutais des références que j'ai vu que le prof m'a donné à la fin et que j'ai tout pris en note, il va falloir que je réécrive tout, alors que sur ordinateur, j'aurais juste à décaler mon paragraphe et intégrer en fait cette information. Et je peux aussi moi-même, en tant qu'étudiant, enrichir mon contenu en mettant des images, des schémas, des vidéos, chose qui est un petit peu plus complexe quand on a tout pris à la main. sur la question du multitasking, parce que je voulais y revenir.
Expliquer, c'est quoi le multitasking?
Alors, donc concrètement, le multitasking, ça intervient quand les étudiants sont en situation d'apprentissage ou sont en train de regarder un cours et qu'ils commencent à faire d'autres activités. Donc par exemple, aller voir les notifications de leur téléphone, discuter avec leurs voisins. Donc on distingue en fait deux formes de multitasking. Un multitasking multimédia, donc qui va impliquer en fait des outils numériques, donc téléphone portable, ordinateur, et un multitasking non multimédia qui, lui, en fait, va être plus relatif aux discussions que l'on peut avoir avec les voisins, au fait de commencer à gribouiller des petits trucs sur son cahier, à faire ce qu'on appelle, alors en anglais, le terme c'est mind wandering, mais c'est l'idée, en fait, de rêvasser un petit peu par la fenêtre et de s'échapper un petit peu du cours par la pensée. Donc voilà, donc deux formes de multitasking. Sur le multitasking multimédia, on a essayé de comprendre un peu avec des collègues comment ça se passait, enfin, et quels pouvaient être en fait les effets délétères. Donc c'est vrai qu'on nous disait beaucoup, oui, bon, maintenant on est face à une génération, c'est des digital natives, donc on parle beaucoup de ce terme-là, ils sont capables de tout faire, ils peuvent s'en sortir. Donc on a dit, ok, ben, nous on va tester ça en fait dans un vrai TD. Et donc on a fait une étude, donc on a fait un cours en fait sur les phobies, et on a demandé à nos étudiants au bout de 20 minutes de nous dire ce qu'ils faisaient, donc d'être honnêtes en termes de multitasking, donc tout était anonyme, c'est-à-dire on n'envisageait pas de les sanctionner à la fin par rapport à leur comportement. Donc on leur demandait de nous dire en fait ce qu'ils faisaient, à la fois en termes de multitasking multimédia, donc avec des téléphones, des ordis, etc. Et aussi à la fois en termes de multitasking non multimédia, c'est-à-dire bah, est-ce qu'ils avaient discuté ensemble, est-ce qu'ils avaient crayonné, est-ce qu'ils avaient lu le journal aussi, parce qu'ils récupèrent le 20 minutes en arrivant du métro, donc des fois on les voit discrètement essayer de lire. Donc voilà. Et en fait, ce qu'on observe, bah, c'est bien qu'il y a, c'est que ce mythe, enfin, les digital natives, c'est vraiment un mythe. C'est-à-dire, ils ne sont pas plus capables que nous de multitasker. Et quand on regarde, en fait, leur pratique, donc, ils multitasquent bien. Alors, pour vous donner un ordre d'idée.
Donner des choses concrètes.
Alors.
Ils font quoi? Ils regardent leurs mails, ils répondent à des textos, ils vont sur le site d'un journal, sur un blog.
Alors. Préférentiellement, ce qu'on a observé, c'est qu'ils vont sur les réseaux sociaux et notamment Facebook. Bon, là, c'était en 2017, donc maintenant, ils vont peut-être plus sur TikTok, pour être tout à fait vrai, ou autre chose, ou Instagram. Bon, là, à ce moment-là, ils allaient sur Facebook, pas mal. Et ensuite, c'était éclaté avec d'autres activités, regarder ses mails, répondre à des textos. Aller effectivement sur Instagram. Donc en multitasking multimédia, ils ont tendance à faire ça. Donc, j'ai quelques chiffres, en fait, à vous fournir là-dessus. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, pendant la séquence de 20 minutes que l'on a testée, ils étaient 91% à avoir multitaské. 91%. Et quand on regarde à l'intérieur, ils étaient 73% à s'être engagés dans du multitasking multimédia. Alors après, avec une grosse variabilité, donc ça va de 1 à 2 écarts en fait, du cours, jusqu'à un qui nous a déclaré près d'une centaine d'écarts en fait, par rapport au cours. Donc regardez.
En 20 minutes.
Voilà, en 20 minutes. Donc c'est énorme. Et il déclare aussi être à peu près 60% à avoir discuté en fait pendant le cours. Donc on voit que globalement, c'est quand même une pratique qui est assez répandue. Alors, quand on regarde leurs résultats, alors je ne sais plus si j'étais arrivée jusque-là, mais quand on regarde leurs résultats, on voit que ils le mémorisent moins bien en fait les contenus du cours, donc c'est significatif quand ils font du multitasking, et notamment c'est pire quand ils font du multitasking multimédia. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de collègues à moi se sont dit « Ah, il faut absolument interdire les ordinateurs en amphi parce que c'est une trop grosse tentation. » Ben, moi, je suis pas fondamentalement pour les interdictions. Au contraire, je suis plus pour l'éducation. Donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est pas interdire, parce que comme je vous le disais, la prise de notes sur ordi, elle présente en fait certains avantages. Donc un partage plus rapide, la possibilité d'enrichir. À mon sens, ce qu'il faut faire, c'est éduquer en fait les étudiants, c'est-à-dire leur apprendre à faire comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est-à-dire couper notre téléphone, le mettre en mode avion pour une heure et éventuellement donc leur expliquer que c'est délétère avec des résultats. Donc l'étude dont je vous ai parlé, en fait, elle a été publiée dans Computer and Human Behavior en 2020. Vous pouvez la retrouver sur ma page perso, par exemple. Donc, c'est, donc publier, transmettre des résultats en fait, de la recherche à ses étudiants pour leur dire, bah, regardez, on a fait une étude et il y a bien des effets délétères. Et puis aussi, éventuellement, refaire un petit cours sur qu'est-ce que le FOMO, donc le Fear of Missing Out, donc c'est l'anxiété en fait, de rater des événements, et leur dire que finalement, en fait, ce FOMO, il va falloir essayer de le contrôler et de se discipliner, puisque si vous ratez les notifications pendant une heure, globalement, je pense pas que votre vie sociale va s'écrouler.
Bien que le nom ait fait son apparition il y a une dizaine d'années, il semble que cette anxiété qu'un événement intéressant puisse actuellement se produire ailleurs ne soit pas si récente.
Oh putain, j'ai une barre.
Je crois que le FOMO existe depuis longtemps, du moins depuis que les médias populaires comme la radio ou la télévision existent. Car beaucoup de gens avaient alors besoin de regarder coûte que coûte leur émission préférée le dimanche soir à 20h45. Et ils avaient peur de la rater. C'est pour cela que je ne crois pas que ce soit Internet qui ait créé le FOMO. Cela l'a simplement accentué. Car depuis Internet, nous recevons tout en un, la radio, la télé et à toute heure. Et entre-temps, grâce au smartphone et à l'Internet mobile, nous pouvons le recevoir également où que nous soyons.
C'était Lisa Schultz, diplômée d'un master en sciences de l'information dans le magazine d'actualité culturelle Beats du 4 mai 2019 sur la chaîne Arte.
Quand vous leur avez donné les résultats, en leur disant c'est multitâche, c'est de l'inattention, vous mémorisez moins, etc. Mmh. Quelles conclusions, eux, ils en tirent ?
Alors, j'ai vu, j'ai mon collègue qui diffuse ça, en fait, qui est le premier auteur sur le papier, qui diffuse ça en amphi de L3. Donc, a priori, il observe moins de comportements de multitasking, mais ce n'est pas mesuré scientifiquement. Mmh. Moi, j'ai eu des feedbacks un peu plus en cours de renforcement, parce qu'on fait du renforcement pour les étudiants en difficulté en L1. Et donc les retours qu'on a eus, c'est qu'ils étaient finalement assez contents d'avoir ces informations-là parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est délétère pour leurs propres apprentissages. Ils se considèrent eux-mêmes un peu comme des digital natives, donc ils se disent que finalement, ils arrivent à multitasker, ils peuvent tout faire. Et quand on leur dit, voyez bien que dans cette étude, si tu ranges ton téléphone, tu vas en fait mieux apprendre. Et les retours qui ont été faits justement par une de mes collègues qui a fait ces entretiens au renforcement, c'était de dire les étudiants sont contents d'avoir cette info et effectivement ils rapportent être plus concentrés quand ils le font. Donc il y a bien, pour moi c'est bien un problème, il y a bien un problème d'éducation à ce niveau-là et il faut qu'on continue à diffuser en fait ce type de contenu scientifique pour changer en fait les habitudes des étudiants.
Christian.
Oui, alors on a tous en tête une espèce d'idéal communicationnel en salle de cours ou un amphi, qui en fait est celui, alors j'hésite à utiliser ce mot devant une psychologue, mais disons le modèle de l'hypnose, c'est-à-dire le modèle qui est au cinéma, on est dans le film et on a complètement oublié qu'on avait des voisins par exemple, et le fait que les voisins bavardent, qui au début nous dérangeaient un peu, on les entend plus parce que ça y est, on est parti. Alors, ces situations, elles peuvent monotâche là pour le coup, ça peut exister dans le monde de l'éducation. Enfin, pardon d'évoquer mon expérience personnelle, mais il m'est arrivé dans des cours d'être capté au point d'être complètement, complètement parti quoi. Mais on sait aussi que ces situations-là sont complètement exceptionnelles et on n'a pas attendu l'invention des téléphones portables pour regarder les arbres dans la cour de récréation, les oiseaux
et la neige qui tombe.
La neige qui tombe, ou les filles dans la classe, etc. Simplement, avec l'arrivée des téléphones portables, ce qui change la donne, c'est aussi que cette diversion, elle se voit. Et en particulier, côté enseignant, c'est extrêmement difficile de faire cours à des étudiants qui ont... moi, à titre personnel, j'interdis aux étudiants de regarder leur téléphone pendant mes cours. Et lorsque j'en vois un qui regarde son téléphone, je l'interpelle. Et puis, on fait en sorte aussi que quand ils sont sur écran, ils ne puissent pas aller sur Internet. Mais, alors, il n'empêche que... Voilà, il y a des choses qui... Par exemple, avoir face à soi un public qui est derrière un écran, c'est beaucoup moins agréable que d'avoir un public qui prend des notes à la main, parce que quand ils prennent des notes à la main, ils nous regardent. Ça, on sait tous ça comme enseignants. Un public qui prend des notes à la main, il regarde le prof, donc il n'y a plus d'échange de regard quand ils sont sur l'écran. Et alors, juste pour terminer sur une anecdote en forme de question, la semaine dernière, j'ai interpellé un étudiant qui était avec son téléphone et j'ai dû m'excuser assez platement dans un deuxième temps, puisqu'en fait, il prenait le cours sur son téléphone. Je lui ai expliqué que mon incompétence technologique était telle que je ne pouvais pas entrevoir ce scénario auquel j'ai promis de faire des efforts pour m'habituer. Quel type de réaction ça suscite, cette anecdote ?
Ça m'est arrivé aussi, alors c'est toujours un peu perturbant parce qu'on n'est pas encore habitué à cette modalité de prise de notes, mais oui, il y a des étudiants qui prennent leurs notes sur téléphone. Je voulais revenir sur votre anecdote par rapport au fait d'être absorbé en fait dans le cours, alors on parlait d'état d'hypnose, mais en fait moi je parle plutôt d'état de flou, parce que l'hypnose, je m'intéresse un peu à l'hypnose médicale comme ça, par curiosité, pour comprendre un peu de quoi il s'agit, mais je travaille en fait sur un autre type d'état de conscience altéré qui s'appelle le flow. Et donc le flow, c'est un état en fait de
l'absorption. FLOT, pardon. C'est quoi flow?
FLOW. Ouais. Donc on dit en français, on traduit ça par le flux, mais je trouve que c'est pas très joli comme terme. Je préfère garder le terme anglais, le flow. Donc c'est en fait le flow, c'est un état d'absorption cognitive intense que l'on peut ressentir dans une tâche et qui va faire en fait on va perdre la notion du temps, qu'on va s'oublier soi-même, qu'on va être complètement imperméable à toute distraction et qui va en fait procurer une forme d'état de bien-être. Comme quand on fait cours et qu'on est content d'être sur la matière sur laquelle on est et qu'elle a réellement un challenge. C'est vraiment un challenge pour nous d'essayer de la transmettre. Parce que s'il y a cette notion importante en fait dans le flow, c'est la notion d'équilibre entre les compétences de la personne et les challenges qui sont proposés. Si on est face à un challenge peu élevé et on a des compétences élevées, ben on va plutôt tomber dans une forme d'apathie. Par contre, si on est en fait sur un challenge qui est très élevé et des compétences très faibles, on va plutôt tomber dans un état d'angoisse. Mais quand tout s'équilibre, c'est-à-dire quand on est en train de parler d'un sujet qui nous intéresse particulièrement, sur lequel on est assez compétent, et que face à nous, on a des gens qui sont eux-mêmes, par exemple des étudiants plutôt avancés, parce qu'on éprouve toujours un peu plus de plaisir à faire des cours aux étudiants qui sont les plus âgés, parce que c'est là où on a les questions les plus intéressantes, donc c'est là où la demande cognitive est la plus importante. Et bien en fait, quand on arrive à atteindre cet équilibre entre les compétences que l'on va avoir et les demandes cognitives de la tâche, et bien on peut atteindre cet état de flow, et cet état de flow est super intéressant à plein de niveaux, parce que globalement c'est un booster de la performance, c'est-à-dire que quand on arrive en fait dans cet état-là, eh ben on peut devenir avoir une meilleure performance au travail, donc nous en l'occurrence en tant qu'enseignants, avoir une meilleure performance en fait dans le cours. Mais c'est vrai pour les élèves aussi. Donc le fait qu'un élève soit en fait face à un enseignant amène un certain niveau de difficulté au regard de ses compétences, et ben il peut aussi atteindre cet état de flow et donc en fait être beaucoup plus performant en termes d'apprentissage lors de la session de cours. L'état de flow, en fait, il est particulièrement intéressant pour les apprentissages. Et moi, dans mes travaux, je l'étudie beaucoup au niveau du numérique. Parce que le numérique, en fait, c'est un super outil pour médiatiser le flow. Je m'explique, par exemple, moi, mon intérêt, il est beaucoup autour des environnements vidéoludiques. Donc, environnement vidéoludique, ça va être, par exemple, des jeux vidéo, voire jeux vidéo éducatifs.
Je vous coupe au fur et à mesure. Est-ce que vous faites une différence entre le jeu purement ludique et le vidéo dit éducatif?
Alors oui, parce qu'en fait, on ne sert pas tout à fait les mêmes objectifs. Dans le jeu vidéo, on va avoir une intention ludique. Donc on va essayer en fait de distraire les individus, de leur faire vivre une expérience enrichissante en utilisant des éléments de gameplay, donc un ensemble d'actions possibles que l'on peut faire dans les jeux, et aussi ce qu'on appelle l'artwork, donc c'est tout le travail artistique, et l'idée en fait c'est de créer cet état de flow, donc cet état d'absorption dans lequel le joueur va se sentir bien et qui va le pousser à continuer en fait l'expérience. Dans le jeu vidéo éducatif, on retrouve cette notion de gameplay, On retrouve, mais encore des fois maladroitement, cette notion d'artwork aussi, de travail artistique. Mais surtout, ce qui différencie le jeu vidéo du jeu éducatif, c'est l'intention sérieuse éducative en fait qu'on va avoir derrière. Le jeu vidéo éducatif, donc on appelle un peu communément serious game. Bon, c'est un terme qui est un peu, je trouve, en train de tomber en désuétude, mais voilà, on utilise encore pas mal ce terme-là. Il est là pour servir des objectifs pédagogiques. C'est une séquence pédagogique qui va être déroulée dedans. Ce qui n'est pas le cas, en fait, des jeux vidéo classiques. D'accord. Par contre, on peut, avec des jeux vidéo classiques, acquérir des connaissances. Alors, il faut savoir faire très attention à ce que on va essayer de faire apprendre, mais je pense, par exemple, à des jeux vidéo comme Minecraft, qui sont de vrais jeux vidéo à la base, et qui peuvent en fait nous apprendre, par exemple, alors dans la version un peu plus éducative, on retrouve ça, à programmer un petit robot, ou qui peuvent être utilisés, certains enseignants font ça, bah pour développer des soft skills, par exemple en termes de gestion de projet, etc., puisque sur Minecraft, on peut se retrouver à plusieurs, et par exemple décider de monter une maison ou autre chose, ou faire un petit projet artistique. Donc voilà, donc ça peut permettre en fait de développer ces compétences-là.
Qu'est-ce que c'est que Minecraft ? Eh bien, c'est tout simplement les Lego du 21e siècle. Vous vous souvenez, ces petites briques de plastique, avec lesquelles vous avez peut-être joué de longues heures ? Eh bien, Minecraft, c'est la même chose, adaptée à notre temps. C'est la possibilité de créer un monde idéal, fantastique et sans limite. Minecraft, c'est faire des mathématiques, c'est faire de la géométrie dans l'espace, c'est acquérir des notions d'architecture, mais aussi de commerce, de production, d'élevage et d'agriculture. C'est jouer en équipe pour construire ensemble des projets pharaoniques. Dans Minecraft, on peut étudier et mettre en œuvre les nombres premiers, le système binaire. On peut créer des réseaux électriques, des systèmes électroniques. On acquiert des notions d'écologie, on gère le renouvellement de ses ressources. On sait que quand on coupe un arbre, il faut le replanter, car on en aura à nouveau besoin plus tard.
Extrait d'une vidéo qui date de 2016 intitulée « Minecraft expliqué aux parents » sur la chaîne YouTube Cousin Hub.
Il y a des jeux vidéo qui permettent d'apprendre aussi des petites choses, donc, mais il faut vraiment, je mets vraiment des grosses guillemets là-dessus, parce que souvent on me dit « ouais, mais dans Assassin's Creed, on peut apprendre des tonnes de choses ». Donc oui, par exemple, on peut apprendre l'histoire de Florence, etc. On peut apprendre des petites choses. Bon, par contre, il faut toujours avoir conscience que le jeu vidéo, il est tordu, parfois, dans son scénario, pour servir des objectifs ludiques qui ne sont pas toujours qui sont pas toujours cohérents avec les objectifs historiques et d'apprentissage. Mmh. Donc, je mets des grosses guillemets, mais on peut apprendre des choses. Et puis, avec certains jeux vidéo aussi, on peut développer des compétences cognitives. Alors, je prends l'exemple d'un jeu très connu qui s'appelle Tetris, où là, en fait, l'idée, c'est de faire de la rotation mentale. Eh ben, on va développer, alors de manière très spécifique et sur un temps court, hein, il faut quand même relativiser, mais avec ce type de jeu, on peut développer en fait des compétences cognitives autour de la rotation mentale.
C'est quoi la rotation mentale ?
Alors, rotation mentale, c'est la capacité que l'on va avoir à visualiser dans notre tête, donc au niveau cognitif, des objets en 3D et à pouvoir les retourner. Et voilà, c'est ce qu'on fait en fait notamment dans Tetris. On essaye de retourner les pièces pour pouvoir les encastrer correctement. Donc voilà, donc c'est les aptitudes, on parle d'aptitudes visio-spatiales en fait dans ce cas-là.
On va faire une pause musicale. Bienvenue avec Video Games interprété par Lana Del Rey. Et on reprendra bien sûr sur ces jeux vidéo.
Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Play a video game. It's you, it's you, it's all for you. everything I do. Tell you all the time, heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now. Old bars, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild darts, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun. Playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I'll tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do.
Vous écoutez Canal B sur le 94.0. À l'instant, c'était Lana Del Rey avec le titre Video Games. Aujourd'hui, dans Chercheurs en Ville, votre émission consacrée à la recherche universitaire, nous recevons Séverine Hérel. Elle est maître de conférences en psychologie cognitive et ergonomie à l'université Rennes 2, membre du laboratoire de psychologie, cognition, comportement, communication, également enseignant-chercheur affilié au groupe d'intérêt scientifique Marsouin. En première partie d'émission, il a été question de l'usage de l'outil numérique auprès des étudiants et de son côté bien pratique, il faut l'avouer, des dangers du multitasking et d'une notion passionnante. Le flow ou flux en français, concentration intense et absorption dans le discours de l'autre. Un état qu'on retrouve dans le jeu vidéo qui trouve alors un intérêt éducatif. Ça va être le sujet de la deuxième partie d'émission.
Séverine Hérel, les jeux vidéo, la manière dont on les utilise quand on est un ou une pédagogue, est-ce que ça dépend aussi de l'âge de l'apprenant et de la discipline enseignée ?
Alors, quand on travaille avec les jeux vidéo éducatifs, il faut savoir que les bénéfices ne sont pas les mêmes en fonction de la population à laquelle on s'adresse. Il y a eu plusieurs revues de questions qui sont sorties, enfin plutôt méta-analyses d'ailleurs, qui sont sorties récemment, donc la toute dernière date de 2020. Et ce qu'ils ont observé, c'est que en fait, les jeux vidéo éducatifs étaient plus bénéfique pour les élèves du lycée et un peu moins en fait pour par exemple les élèves en école élémentaire. Donc il y a des études là-dessus qui montrent ça. En plus, ce qui est observé dans certaines revues de questions et méta-analyses, alors je pense notamment à un travail qui a été fait par Meyer en 2014, c'est que les jeux vidéo qui traitent de sciences fonctionnent, les jeux vidéo éducatifs qui essayent en fait de faire apprendre les sciences fonctionnent plutôt assez bien. On a des bénéfices en termes d'apprentissage et surtout en termes de compréhension, ce qui est très intéressant. Par contre, il y a des catégories de jeux vidéo éducatifs qui fonctionnent un peu moins bien, comme par exemple les mathématiques. Donc voilà. Donc les sciences, alors quand je dis sciences, c'est physique, chimie, sciences naturelles, donc biologie, etc. Ça fonctionne plutôt bien. Mathématiques, ça fonctionne aussi en langue, tiens, j'ai oublié de le dire. Mais par contre, mathématiques, ça fonctionne un peu moins bien.
Et pourquoi ?
Alors, bonne question, je ne sais pas. Je pense que c'est le caractère abstrait, en fait, des choses qui est difficile à illustrer dans un jeu vidéo. Quand on parle d'une réaction chimique, on peut la faire visualiser facilement sur un développement mathématique. Parfois, ça ne s'y prête pas toujours bien, en fait. Résoudre une équation, par exemple. Voilà. Donc, je pense que c'est lié aussi à cette capacité des jeux vidéo éducatifs à permettre de visualiser les choses, donc de produire ce que nous on appelle un caractère analogique en fait au contenu. Mmh. Voilà.
Dans les jeux ils sont toujours encadrés, il y a des règles, il y a des paliers, il y a des consignes. Mmh. Est-ce que ça s'applique évidemment directement à l'apprentissage ou pas ?
Alors effectivement, le fait qu'il y ait des règles et des contraintes dans le jeu vidéo éducatif, c'est très important parce que c'est ça en fait qui va créer le flow dans le jeu vidéo éducatif. Et ce flow, comme je vous le disais tout à l'heure, il a plein d'apports bénéfiques et notamment c'est un booster de la performance et donc ça peut être un booster de l'apprentissage. Dans le flow, on a toujours cet aspect équilibre entre les compétences et les challenges. Donc mes compétences sur le premier niveau, par exemple, de jeu vidéo éducatif vont se développer. Bah, il faut que le challenge, en fait, se réajuste, c'est-à-dire qu'il faut passer au niveau 2 de difficulté pour pouvoir en fait maintenir cet état de flow. Un jeu qui n'évoluerait jamais, bah, très vite, en fait, le niveau de compétence des étudiants va augmenter, mais par contre, ils vont finalement s'y ennuyer.
Est-ce que pour les enseignants, ce côté du tout ludique, est-ce que les enseignants maintenant sont sommés d'amuser la galerie avec de nouveaux outils, à faire les pieds au mur, enfin, oui. Il y a toujours eu ça, mais, oui. Mais là...
Alors, dans ma conception des choses, non. Je pense que le serious game, enfin le jeu vidéo éducatif, est un bon outil en fait en complément d'un cours présentiel. Je m'explique. Je pense qu'il y a certaines notions qu'il vaut mieux apporter au préalable en fait aux étudiants, donc sous un format plutôt conventionnel, et qu'après en fait le jeu vidéo éducatif peut être un bon outil pour mettre en pratique ce que l'on a pu voir valider des compétences, valider en fait des savoirs que l'on vient d'apprendre. Je ne pense pas en fait que le jeu vidéo éducatif aujourd'hui puisse être un outil de diffusion du savoir en soi. Je pense pas qu'on pourrait faire tout un module, par exemple, à l'université, uniquement via un jeu vidéo. Par contre, je trouve que son application est très intéressante quand il s'agit, en fait, de mettre en pratique ce que l'on vient d'apprendre. Voilà. Et en plus, ce qui est intéressant aussi dans le jeu éducatif, c'est son côté appétence. C'est-à-dire, on voit bien que chez certains élèves, c'est difficile d'avoir de l'intérêt pour la physique, pour la chimie. Et en fait, le fait de rendre les choses un peu ludiques, ça peut intéresser à cette matière et créer une accroche qui peut un petit peu perdurer. Donc pour moi, l'outil Serious Game en soi ne peut pas remplacer un enseignant ou remplacer les cours d'un enseignant, mais un bon outil en fait intégré dans une séquence pédagogique est aussi un bon outil en fait d'appétence.
L'introduction d'un jeu en classe a un impact généralement très positif sur la motivation des élèves. Au-delà de l'aspect nouveauté, un jeu bien conçu donne régulièrement à l'élève un retour positif ou négatif sur ses actions. Cela entretient sa motivation dans la durée. Ensuite, le jeu est un support pédagogique qui se prête bien à l'apprentissage par essai-erreur. Il est tout à fait possible d'utiliser des jeux comme exercice d'application à un cours. Mais certains jeux se révèlent à l'inverse pertinents pour permettre aux élèves de découvrir et construire des connaissances par tâtonnement. Enfin, le jeu est un excellent outil pour prendre en compte les différences de rythme d'apprentissage entre les élèves. Dans un jeu bien conçu, chaque élève peut progresser à son propre rythme. Par exemple, certains élèves ont parfois besoin de nombreuses tentatives avant d'arriver à la bonne solution. Si un enseignant dit 3 ou 4 fois d'affilée à un même élève de recommencer son travail, ce dernier risque de se sentir rabaissé. Tandis que si c'est un ordinateur qui le lui demande, même au bout de 10 ou 15 tentatives, l'élève ne se sentira pas jugé négativement. Il s'agit là d'une différence de perception entre un jugement provenant d'un humain ou d'une machine, qu'il est très intéressant d'exploiter en classe.
Vous venez d'entendre Julien Alvarez, chercheur et concepteur de Serious Games, dans une vidéo intitulée « Approche pédagogique et Serious Games » qui date de 2017 et à retrouver sur sa chaîne YouTube.
On est au fond sur une problématique assez classique, qui est celle du loisir utile. Hein. Voilà, c'est les lectures qui ne sont pas directement celles de la bibliographie du cours, mais qui font écho, etc. C'est le voyage culturel, etc. Est-ce que ces jeux vidéo éducatifs, est-ce que les enseignants participent à leur conception ou est-ce qu'ils sont en bout de chaîne?
Alors, je pense que ça c'est le plus gros défi à relever ces prochaines années sur le jeu vidéo éducatif, c'est d'essayer en fait de trouver la bonne balance entre le côté jeu ludique et le côté contenu. Dans mon expérience, donc en 2010, j'ai essayé de concevoir avec la FEPEM, alors aujourd'hui il s'appelle Hyperia, un jeu vidéo éducatif pour la formation des assistantes de vie. Et en fait, Je suis très partagée sur le résultat parce que on a effectivement créé un serious game qui fonctionne et qui est fonctionnel. Mais par contre, des fois, le contenu pédagogique prend le pas sur le côté ludique et des fois, c'est un peu l'inverse. Donc, c'est difficile. C'est un équilibre, en fait, qui est difficile. En plus, pour concevoir des jeux, faut comprendre qu'il faut avoir certaines compétences et notamment en game design. Et ça, c'est pas des compétences, en fait, qu'ont les enseignants. Donc, il y a certains qui essayent de concevoir leurs jeux et qui font ce qu'ils peuvent et parfois ils arrivent à des résultats qui sont pas trop mal, mais c'est vrai qu'il y a une vraie compétence en game design à avoir. Donc à mon sens, ce qui pourrait arriver dans les prochaines années, et on voit que certaines entreprises commencent à se positionner là-dessus, et notamment des gros éditeurs de jeux vidéo, c'est des éditeurs qui vont concevoir des séquences pédagogiques et qui vont peut-être intégrer dans des comités d'experts des enseignants en fait de l'éducation nationale. Bon, pour l'instant ça reste encore enfin, je vois les choses poindre plutôt dans ce sens-là. J'attends de voir la confirmation dans quelques années.
Et peut-être dans la continuité de ce que disait Colette tout à l'heure, est-ce que, indépendamment des questions d'efficacité en termes d'apprentissage, etc., est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque dans une espèce de basculement des représentations que les jeunes se font de ce qui est le travail et de ce qui est le loisir, c'est-à-dire le livre par exemple devenant un objet un peu passéiste, ou l'imprimé en général, le cours magistral devenant quelque chose d'un peu terne, un peu ennuyeux. Comment on peut gérer cette complémentarité entre le ludique et le terne?
D'accord. Alors, dans votre formulation, j'ai un peu l'impression que vous opposez au final, on va dire le livre, l'humain au numérique. Sauf que moi, le numérique, je le vois comme un formidable outil pour médiatiser en fait tout ça. Quand on fait cours, par exemple, en amphi, alors, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres disciplines, mais en psycho, on utilise beaucoup des diaporamas qu'on essaye d'enrichir. On met des contenus.
Oui, mais je pensais aux jeux vidéo.
Voilà. Alors après, pour le jeu vidéo en lui-même, il y a des possibilités, à mon sens, des enseignants de réintervenir dedans, notamment via ce qu'on appelle des leaderboards, donc c'est des classements. Désolée, je parle un peu franglais des fois. Donc c'est des classements en fait des meilleurs joueurs et ça permet de fournir surtout des feedbacks aux apprenants sur les difficultés, leurs points de difficulté. Ceux qui sont les moins bien classés, alors on peut peut-être pas forcément les afficher dans le fameux classement, mais au moins on peut leur faire un retour en disant bah, voilà, vous avez eu plus de difficultés sur cette séquence-là, est-ce que vous voulez qu'on la retravaille ou est-ce que vous voulez que je vous réexplique ? Après, est-ce qu'aujourd'hui le numérique va se substituer, parce que c'est aussi la deuxième partie de votre question, au livre par exemple, c'est une question.
Est-ce qu'il n'y a pas une tyrannie du ludique, pour le dire d'une autre façon?
Non, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Aujourd'hui, le tout enseignement ludique, on n'y est pas du tout. Ça reste quand même assez. Enfin, moi, je vois dans les pratiques scolaires, ça apparaît un peu. mais c'est quand même, voilà, tous les enfants ne voient pas tous les jours en fait des séquences d'apprentissage via des environnements vidéoludiques. Après, est-ce qu'il existe une tyrannie du ludique ? Moi, je vois aussi qu'il y a des enseignants qui ont du plaisir à le faire, en fait. Enfin, j'ai vu quelques petites choses sur, par exemple, des outils de programmation ludique, et notamment via, alors, c'est fait, j'ai vu plusieurs vidéos là-dessus sur, en maternelle, faire apprendre aux enfants à programmer via une tablette une petite abeille, à faire des déplacements, etc. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
Pour ce qui est de la Bluebot, elle est en liaison Bluetooth, soit avec la barre de programmation qui est ici, soit avec la tablette, puisqu'il y a une application dédiée pour la Bluebot. Donc la Bluebot, on va la programmer par exemple avec cette barre, avec des petites cartes, comme ça. Et donc ces cartes-là vont permettre de lui décider quel est le trajet qu'elle va faire sur le tapis. Avancer deux fois, trois fois, tourner à droite et avancer encore. La dernière étape en termes de difficulté de programmation avec la Bluebot, ça va être l'utilisation ici de l'application qui va permettre, contrairement à la barre de programmation, de créer des programmes beaucoup plus longs. Parce que là, ici, on voit qu'on va pouvoir déposer toutes les flèches de programmation et les déplacer facilement. Il y a aussi, au niveau de la compréhension spatiale, quelque chose de supplémentaire puisqu'on passe sur un support qui est complètement virtuel. Donc, par rapport à la visualisation de l'espace pour les enfants, ça ne met pas tout à fait en jeu les mêmes choses.
Extrait d'un reportage du média Ludomag dans lequel on entend Karine Sadran, maître animateur informatique sur la circonscription de Grasse et qui nous présente des robots abeilles, c'était en 2016.
Et du coup, on voit aussi que l'outil ludique, la tyrannie dont vous parlez, moi je trouve que ça aide aussi certains enseignants à prendre du plaisir et à diversifier leurs pratiques en fait, dans leur métier. Dans cette vidéo, ce que j'avais trouvé super intéressant, c'est que voilà, les enfants avaient l'air vraiment intéressés par ce qu'ils font et on n'est plus simplement en fait, dans quelque chose de réceptif, c'est-à-dire on n'est plus nous face à une classe, et c'est le même cas aussi quand on est enseignant-chercheur. Cette fois, on est à côté des élèves en train de leur expliquer et ils ne sont plus, eux, réceptifs du tout. Ils sont vraiment dans l'induction, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à comprendre pourquoi ça se passe comme ça dans le jeu, pourquoi est-ce qu'il y a telle ou telle action. Et du coup, ça les rend aussi plus proactifs dans l'apprentissage, ce qui est quand même un peu plus intéressant pour nous, enseignants. Donc, est-ce qu'on va aller vers une tyrannie, en fait, du ludique ? Je suis pas convaincue. Par contre, je pense qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui se rendent compte que c'est un bon moyen de toucher en fait les élèves, et c'est à mon sens aussi un bon moyen de switcher un peu les positions, de changer les positions, c'est-à-dire de ne plus être en fait dans des cours où on attend en fait que les élèves soient réceptifs, mais plus d'être dans des cours où on attend que les élèves soient plus dans une position active et qu'ils aillent vers l'induction, c'est-à-dire rechercher les infos.
Séverine Herel, depuis 2017, à l'Université Rennes 2, donc au sein de votre laboratoire LP3C, vous expérimentez un Twitter pédagogique.
Alors oui,
ça... Est-ce que vous voulez bien nous dire en quoi ça consiste et qui sont les étudiants concernés ?
Alors en fait, c'est parti d'un constat, c'est qu'on avait beaucoup de contenu, super intéressant, mais on n'avait pas le temps en cours de les donner, et puis c'était pas facile, donc on s'est dit tiens, il faut qu'on crée un support. Alors on aurait pu utiliser notre format cursus habituel, sauf que on sait très bien que les étudiants aujourd'hui, ils vont sur les réseaux sociaux, on le sait puisque je vous ai expliqué, on a fait la fameuse étude, donc on s'est rendu compte que c'était même probablement pire que ce qu'on imaginait. Mais on s'est dit tiens, de toute manière, ils y sont, ils y vont, ces réseaux sociaux, ils ont quand même des systèmes pour capter l'attention des gens, donc notamment via des notifications, et puis via aussi, on a choisi Twitter aussi parce que on est sur du microblogging un peu à l'infini et on peut poster tout un tas de contenu. On s'est dit bon, finalement, on va peut-être utiliser ce support-là, on va voir. L'idée, c'est de détourner un usage classique pour en faire un usage pédagogique. Donc, très rapidement, quand on a brossé un peu les types de supports, on se dit Twitter, ça nous convient assez bien, c'est un format microblog, on peut mettre des contenus, donc voilà. Donc en 2017, on s'est dit, on va mettre des contenus aux étudiants. Donc on a mis des contenus la première année, puis comme on est toujours un peu curieux de ce qu'on fait...
Combien d'étudiants vous avez, voilà.
Il faut aussi comprendre, alors c'est vrai que je ne vais pas expliquer, qu'on est sur, en première année sur 530 étudiants en L1. Ce qui nous rend difficile, c'est difficile pour nous de faire un vrai suivi parce qu'ils sont tellement nombreux, on ne les connaît pas. On essaye de s'adresser à eux via les mails quand on a besoin, mais leur transmettre du contenu à l'ensemble, c'est très compliqué. Et donc, on est parti dans l'idée de, on va utiliser un Twitter pédagogique, on va faire un Twitter pédagogique, on va détourner le réseau social pour en faire un outil pédagogique. Donc en 2017, on met ça, on commence à poster des contenus, puis comme on est super curieux, on s'est dit, il faut qu'on évalue en fait la pertinence de cette pratique, donc à savoir est-ce que ça a des conséquences bénéfiques à la fois sur l'apprentissage et sur la motivation. Donc 2017, on fait ça avec nos 530 étudiants. Toutes les semaines, on poste des contenus. C'est toujours le même jour. On leur demande d'activer les notifs.
C'est le jour du Twitter pédagogique.
Il y a un jour du Twitter pédagogique. Donc au préalable, on leur envoie quand même un petit mail pour leur expliquer ce qu'on veut faire. Que voilà, l'idée, c'est pas d'aller les espionner sur leur compte à eux, qu'ils vont se créer ou qu'ils ont déjà, mais plutôt vraiment nous d'être là pour leur donner du contenu. Donc 2017, on commence à faire ça, on poste du contenu, 3-4 contenus un peu toutes les semaines, sur un thème qui correspond à ce qu'ils ont vu en cours dans la semaine. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, par exemple, on va apprendre des choses sur la vision aveugle, qu'on appelle l'hémianopsie, et puis on va leur poster une vidéo de quelqu'un qui va essayer, par exemple, de traverser un couloir et qui est atteint d'hémianopsie, et on va voir que cette personne, en fait, évite les obstacles. Donc c'est pour leur illustrer un petit peu les contenus du cours. Puis on leur met des articles de presse scientifique, mais généraliste. Donc, par exemple, Sciences et Vie, Sciences et Avenir. Donc, que des contenus qui sont toujours relus par les enseignants et validés par les enseignants. Donc, 2017, on fait ça. On fait des mesures de l'apprentissage et de la motivation. Et ce qu'on observe sur la première cohorte, c'est que finalement, on n'a pas des effets sur l'apprentissage, donc ils ne sont pas meilleurs aux examens. On a mis un petit quiz à la fin, ils ne sont pas meilleurs à notre petit quiz. Mais par contre, ils s'ennuient moins en cours. Ils trouvent ça moins ennuyeux, en fait, la psychocognitive. Donc on se dit, bon, ce n'est pas transcendant.
Mais c'est pas rien, quand même.
C'est pas rien. Ce n'est pas transcendant non plus, mais on va continuer. Et puis on s'est dit, en 2018... Ah, il faut qu'on enrichisse un peu le truc et qu'on les stimule un peu parce qu'ils n'interagissent pas trop. Si on faisait des quiz. Donc, il n'y a pas un outil de quiz dédié, en fait, dans Twitter, mais il y a un outil de sondage. On s'est dit, on va faire des quiz au format sondage. Donc, toutes les semaines, on s'est dit, le jeudi, c'était toujours le jeudi, on va poster 3 questions avec plusieurs réponses à choix multiples. Et puis, on va, en fait, ensuite, au cours d'après, répondre aux questions avec eux pour voir, en fait, s'ils ont bien compris le cours. Donc, toutes les semaines, on a posté encore des contenus. On a quand même gardé nos contenus. On a posté nos 3 questions. Et puis, on est allé voir ensuite, comme on est toujours curieux, on est allé voir ce que ça donne en termes d'apprentissage et de motivation. Ce qu'on a observé en 2018, ça devient un peu plus intéressant. C'est-à-dire qu'on a eu des bénéfices, mais il faut encore qu'on arrive à bien les comprendre sur l'examen final. Qu'on a eu également des bénéfices en termes de motivation intrinsèque. Donc là, on gagnait en fait sur l'intérêt du cours. Donc ils étaient plus intéressés, ils trouvaient ça plus intéressant et ils avaient plus envie de s'y investir. Et on a toujours une stabilité de notre résultat sur la motivation. Donc ils sont moins amotivés dans le cours, c'est-à-dire que globalement, ils trouvent ça moins ennuyeux. Donc on s'est dit, c'est génial. Sauf qu'on a encore pas mal de questions à se poser, puisque... on ne sait pas si finalement on n'arrive pas à capter uniquement les étudiants qui sont les plus intéressés dans le cours et qu'on laisse de côté encore les autres. Donc on a refait une salve en fait d'évaluation cette année pour essayer de voir si sur l'ensemble des étudiants, parce qu'on leur faisait répondre à un questionnaire en ligne, donc là on n'avait que ceux qui voulaient bien répondre au questionnaire en ligne, donc là on a fait sur l'ensemble de la cohorte, on va essayer de voir en fait si ça se confirme, si ces résultats en fait se confirment et qu'on a bien en fait un effet de ce dispositif.
Et donc le résultat
en cours de traitement,
vous êtes encore...
voilà, on a d'accord. Fini les acquisitions en janvier, on est en train de traiter. Je reviendrai peut-être en parler si jamais on arrive à publier ça. Mais voilà. Mais on a eu des retours, ce qui était intéressant aussi, c'est que, c'est très rare, moi, dans ma pratique, j'ai rarement vu ça. On a des étudiants qui nous ont écrit, en fait, pour nous dire que c'était super ce qu'on faisait, qu'ils avaient trouvé vraiment les cours plus intéressants. Donc j'ai eu quelques mails. Alors j'ai pas eu des salves de mails, mais j'ai eu quelques mails, puis des retours d'étudiants qui attendaient vraiment tous les jeudis, en fait, les questions. Et des fois, ça m'est arrivé, je dis, normalement, donc je mets les questions et je corrige en ligne les questions de la semaine d'avant pour les étudiants qui ne pouvaient pas venir. Et comme je sais qu'il y a des étudiants qui sont en distance et qui sont abonnés, j'allais voir. Et parfois, il m'est arrivé, en fait, d'oublier de corriger tout de suite les questions de la semaine d'avant. Et en fait, je recevais des mails en disant, mais il faut nous donner les réponses, donnez-nous les réponses. Et puis, voilà.
Est-ce que la morale de l'histoire, c'est pas que face à cet exercice un peu ingrat et absurde qu'est l'enseignement en amphi avec un public passif, bah, du coup, là, on les interpelle comme acteurs et du coup, on les fait rétroagir, quoi.
C'est effectivement ça, en fait. Le fait de répondre à des questions, ça les rend actifs dans l'apprentissage et surtout, ça leur donne ce qu'on appelle un feedback. Donc, ils ont une conscience de ce qu'ils ont compris ou pas dans le cours, puisque les questions, je ne l'ai peut-être pas assez précisé, mais c'est des questions qui portaient sur le contenu du cours de la semaine. Et donc, ça leur permet de savoir, en gros, bah, s'ils ont bien compris ou pas, et éventuellement d'aller faire leur révision, en fait, s'ils s'étaient trompés à la question en fait, qu'on avait posée.
Ce qui répond quand même à un vrai problème de pédagogie en L1 à l'université. Donc là, on est vraiment au cœur de la
difficulté. C'est la complexité en fait, des gros effectifs que l'on a, c'est qu'on a du mal à rendre les étudiants actifs en fait, dans ce type de contexte. Donc là, on s'est dit, il faut encore qu'on teste les choses. Et je pense que là, au bout de la troisième année, donc là, fin d'année... normalement, on devrait avoir analysé tous les résultats. On va essayer de publier quelque chose là-dessus. Mais je pense qu'on va continuer après, au-delà, de tester ça. Parce que ça soulève chez nous encore pas mal de questions. C'est-à-dire là, on les rend actifs. Ils ont un feedback. Ils savent où ils en sont par rapport à leur performance de compréhension du cours. Et en fait, nous, ce qu'on aimerait aussi, un jour, c'est les amener, mais c'est dans un monde idéal, on verra. Mais c'est les amener aussi à être encore plus actifs. C'est-à-dire ben, poser des questions entre eux. Et puis, réellement s'en servir comme un outil d'échange. Et puis, encore plus idéal, de voir des étudiants donc, nous poser des questions, de voir des étudiants répondre aux questions d'autres étudiants, et encore plus idéal, qu'ils nous amènent eux-mêmes des contenus en nous disant qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc voilà.
Vous disiez aussi que ce Twitter, ça permettait aux élèves de voir que les profs s'investissaient pour eux.
Oui, ça aussi, je trouve ça intéressant parce que on est très dans une position réceptive à 530. Donc, des étudiants viennent discuter à la pause, mais on peut pas discuter. Enfin, face à moi, par exemple, dans mon groupe de CM, ils sont à peu près 120 en moyenne toutes les semaines. Ça varie, ça fonctionne, c'est en fonction de ceux qui viennent ou pas, qui ont des activités professionnelles à côté. Mais je ne peux pas discuter, malheureusement, avec tout le monde. Et là, le fait de se dire, ben en fait, je peux échanger avec mon prof. Déjà, je pense que ça crée une relation de proximité qui peut être intéressante, où ils disent que finalement, bah, leur prof, c'est des gens qui ne sont pas sur un piédestal et qui sont accessibles, puisqu'on essaye de répondre. Et puis, aussi, ils se disent, ben, voilà, avec ils ont tendance à venir au cours et puis après, ils repartent et on ne les voit pas. Certains, je les revois en TD, mais pas toujours. Là, ils se disent, bon, ben, en fait, il y a toujours, au final, des profs qui s'intéressent à nous et qui ont envie de nous faire progresser. Et ça, je trouve que aussi, c'est intéressant.
Oui, ça démontre une bonne volonté pédagogique de la part de l'enseignant qui ne se voit pas toujours dans le cours lui-même parce que les étudiants sont un peu aveugles là-dessus. Et du coup, oui, ça...
Ouais.
ça...
Et puis, c'est vrai qu'on essaye de faire du community manager, du community managing. On essaye d'être des... Enfin, moi, j'essaye, donc j'administre un peu cet aspect-là sur le Twitter. J'essaye de mettre des choses un petit peu rigolotes pour lancer les quiz ou... pour leur dire attention, les révisions, ça va commencer, bonne chance pour vos révisions. Et je pense que du coup, l'intérêt aussi, c'est qu'au-delà du cours, ben, ils se disent qu'on a un petit côté un peu humain aussi et qu'on peut être rigolo parce qu'on va mettre un petit gif rigolo. Donc voilà, je pense que c'est bénéfique pour la relation.
Ouais, ça désamorce la violence de l'amphithéâtre, quoi.
C'est vraiment le. Enfin voilà, entre. On est face à eux, il n'y a pas un mur, mais il y a une distance qui se crée. Et je me dis, d'avoir ce type d'outil, ça peut. Ça peut limiter en fait la distance et se dire que finalement on est dans un contexte qui n'est pas évident pour nous mais qui a une vraie volonté pédagogique de les faire progresser chacun individuellement. Quoi.
Séverine Herel, on vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Merci Christian Lebar, merci notre réalisatrice Lucie Loipre et rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission de Chercheurs en Ville.